Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
Bienvenue à Star Wars en direct édition Clone Wars, la 19e édition qui sera consacrée à Hostage Crisis, le dernier épisode de la saison 1. Cet épisode a été écrit par Eoghan Mahoney et mis en scène par Giancarlo Volpe. Les personnages clés de cet épisode, Zero le Hutt, Cad Bane, Aura Singh, Robonino et Shahan Halama, le chancelier Palpatine, Anakin Skywalker et Padmé Amidala. Voici le résumé détaillé de l'histoire. Le soleil et la monotonie règnent dans les cieux de Coruscant lorsqu'un airspeeder vient perturber ce tableau. À son bord, le chasseur de primes Cad Bane, un duo à la peau bleue coiffé d'un large chapeau dissimulant ses traits, accompagné du wiki Shahan Halama, d'un duo de droïdes commando et d'un droïde assassin. La destination du véhicule est l'aile est du dôme abritant la plus haute institution républicaine, le Sénat Galactique. Des gardes sénatoriaux sont là pour les accueillir et pour les informer du viol de protocole de sécurité qu'ils ont commis en pénétrant dans cette zone à accès réglementé. Cad Bane semble ne pas s'en soucier. Il déclare calmement qu'il a des affaires à régler avec le Sénat et que ça ne regarde en rien les gardes. Le capitaine de la garde sénatoriale ne se laisse pas faire et ordonne à Bane de s'agenouiller. Soudainement, des tirs se font entendre. Les gardes tombent, l'un après l'autre, sous les coups d'un tireur embusqué. Sur le parapet d'une tour pas très loin, Aura Singh cible et abat tour à tour le soldat républicain à découvert. Bane se charge du capitaine en se ruant sur lui avant de lui briser la nuque d'un geste plein d'assurance. La garde à terre, le chasseur de primes ordonne à Singh et à son escorte de les rejoindre. Deux droïdes commando nettoient la plateforme et revêtent les armures des gardes du Sénat. Ils contactent ensuite le centre de commandement en leur affirmant que les manifestants contre la guerre étaient à l'origine des altercations, mais que la situation était maintenant maîtrisée. Un second airspeeder arrive et libère Aura Singh, Robonino et deux droïdes assassins. Avec les droïdes commando assurant leur retraite près des deux airspeeders, le reste du groupe de meurtriers peut avancer dans les couloirs du Sénat. Au même moment, dans les bureaux du sénateur Padmé Nabiri, Anakin Skywalker rend visite à la jeune Naboo. Le Jedi essaye de la convaincre de prendre un peu de temps pour elle afin qu'ils puissent passer quelques moments ensemble. Padmé veut rester concentré sur son travail tandis que Skywalker lui confie que rien ne compte plus pour lui que le sentiment qu'ils partagent l'un pour l'autre. Lui, prouvant le poids de ses mots, il lui tend son bien le plus précieux, son sabre laser. Les deux amoureux ne peuvent poursuivre leur entrevue avec l'arrivée impromptue du droïde C-3PO, suivi de près par le sénateur Organa. Caché derrière le bureau de Padmé, Anakin entend Bail annoncer à Padmé que sa présence est souhaitée par le sénateur Philo, la réunion étant de la plus haute importance. Elle est obligée d'abandonner Anakin dans son bureau. Le groupe de chasseurs de primes mené par Cad Bane poursuit sa progression sanglante dans les couloirs du Sénat. Un autre groupe de gardes est victime de la froide précision des droïdes assassins. La salle de contrôle est alors entre les mains de Bane, ce qui permet à Robonino de pirater le réseau d'électricité du bâtiment. Dans un atrium de l'aile est du Sénat, le sénateur Organa retrouve d'autres représentants républicains, dont le Grand Philo. Leur réunion a pour but de discuter d'un projet de loi donnant plus de pouvoir à Palpatine, mais les discussions ont à peine le temps de commencer que les chasseurs de primes pénètrent dans la pièce. Philo est outré par un tel acte et décide de tenir tête au hors-la-loi en se dirigeant vers la sortie. Cade, pour toute réponse, le tue en lui tirant dans le dos. À quelques pas de là, Ornfruta se précipite dans les bureaux du chancelier Palpatine. Ta déclenche le réseau de communication de Palpatine qui laisse apparaître Cad Bane. Il déclare au chancelier qu'il retient en otage un groupe de sénateurs et que si Palpatine veut les garder vivants, il doit relâcher Zero le Hutt du centre de détention. Ne croyant pas à une telle audace possible, les doutes de Palpatine sont balayés lorsque Robonino coupe l'énergie de l'ensemble du complexe sénatorial. L'éclairage d'urgence s'active, les sas de sécurité se verrouillent, emprisonnant Palpatine dans son bureau. L'essence en alerte, Anakin émerge des quartiers de Nabiri et commence son enquête. Il ne tarde pas à entendre la voix de Padmé, mais sa position est vite repérée par Bane, qui le canarde de ses blasters LL-30S. L'interruption provoquée par Skywalker permet à Padmé de garder secret un atout de taille. En effet, elle avait gardé sur elle le sabre laser d'Anakin. Désarmé, Skywalker réussit à distancer ses deux poursuivants, Shallan Alama et un des droïdes assassins, avant de se réfugier dans le bureau libre où il réussit à entrer en communication avec Palpatine. Les deux chasseurs sont sur ses pas et Anakin n'a pas le temps de recevoir quelques directives du chancelier avant d'être contraint de fuir. La force permet aux Jedi de manipuler l'esprit du Wiki, qui décide alors d'aller poursuivre ses fouilles plus loin. Shallan Alama se charge d'examiner l'étage supérieur, tandis que le droïde se dirige vers le niveau en dessous. Skywalker suit le droïde et engage un combat à main nue avec l'assassin. La force du droïde surpasse celle d'Anakin, qui, s'emparant du blaster du robot, croit prendre le dessus. Mais le droïde pile sur le canon à 180 degrés sans difficulté. Skywalker utilise alors l'arme comme une masse pour frapper le droïde, qui ne le tarde pas à subir les conséquences de ce traitement. Lorsque Shahan rejoint l'étage du droïde, c'est pour découvrir la carcasse inactive de l'assassin. S'apercevant que le droïde ne porte aucune trace de coup de sable laser, le Wiki conclut que le Jedi est désarmé. Il s'empresse de rejoindre Bane pour lui annoncer la nouvelle. Le chasseur de primes ordonne alors à Hora Singh d'aider Alama à retrouver Skywalker. De son côté, Anakin se rend à la salle de contrôle, mais Robo Nino verrouille la porte de l'intérieur. Shahan ne tarde pas à trouver Skywalker et à le mettre en joue. Faisant appel à la télékinésie, le Jedi parvient à désarmer le Wiki. Hora Singh est dans son ombre et lorsque Shahan s'agenouille, mimant sa reddition, elle tire d'un coup précis vers Skywalker. Surpris et sans défense, le Jedi se fait à nouveau surprendre par Robo Nino qui, agissant dans le dos, avait réouvert le sas pour l'attaquer avec un taser. Skywalker ne peut contrer l'attaque et tombe à terre inconscient. Au même moment, 3D, un droïde assassin, entre dans le bureau de Palpatine pour escorter Orn Fruta dans sa mission. Cad Bane lui confie la tâche d'aller chercher Zero. Après un court voyage en Airspeeder, 3D et le sénateur arrivent au centre de détention et sont accueillis par les Clone Troopers. Ces derniers leur délivrent le Hot avant de suivre du regard l'Airspeeder qui repart pour le Sénat. Pendant ce temps, Alama et Robo Nino piègent la salle où les otages, rejoints par Skywalker, sont retenus. Bane contacte une dernière fois Palpatine pour lui annoncer de ne rien tenter au risque de voir les sénateurs mourir. Le chasseur de primes quitte ensuite l'atrium pour rejoindre la plateforme où attend 3D et Zero. Les canonnières républicaines arrivent à leur tour au Sénat et libèrent leurs escouades de clones dans les bureaux du chancelier. Deux autres canonnières se rendent sur la plateforme afin de retenir Bane et ses assassins. Palpatine contacte Bane pour lui demander sa reddition, mais le duo a encore des cartes à jouer. Révélant le piège tendu au sénateur, les clones sont contraints de baisser leurs armes, laissant le passage libre au groupe de mercenaires. Skywalker se réveille peu avant le déclenchement du piège et, grâce au sabre laser que Padmé avait gardé, le Jedi parvient à découper le sol. La dalle sur laquelle le sénateur se retrouve s'affaisse au niveau inférieur, les protégeant ainsi de l'explosion déchirant l'étage où il se trouvait quelques secondes auparavant. Moi-même, Jean-François et François avons discuté de ce dernier épisode de la saison 1 de la série Clone Wars et voici nos commentaires. Donc bonjour messieurs, bonjour François.
Salut.
Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Vous avez bien entendu écouter le dernier épisode de la série télé Clone Wars Hostage Crisis. Première impression, François?
Ben moi j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Ils introduisent des personnages nouveaux et aussi d'autres qui font plus caméo. Donc j'aimais ça. La musique aussi était bonne, l'intrigue aussi.
GF.
J'ai trouvé qu'en général c'était un bon épisode. Il y avait le retour de mon personnage préféré qui est Zero le Hot. Non, en général c'était un bon épisode. J'ai trouvé que ça avait c'était un peu différent des autres épisodes qu'on a vu avant.
Mm-hmm. Ouais, c'était vraiment un stand-alone là, qui était... On faisait une pause sur la guerre, mettons, d'une certaine façon, pour voir un autre côté qu'on espère qu'ils vont réutiliser un peu plus souvent, disons-le. C'est pour nous donner un frein sur ce qui se passe dans la guerre, malgré que dans les prochains, j'ai l'impression que tout va être entremêlé. La devise pour cet épisode était un secret partagé est une entente constituée, ou quelque chose comme ça en français. Je sais pas, ça s'applique à quoi exactement. Un secret partagé, ben, ça peut s'appliquer à Padmé puis Anakin. Ça peut s'entendre avec Zero puis Bane. C'est comme...
Moi, je vois pas beaucoup de choses à laquelle ça peut s'appliquer. Peut-être au sabre laser qu'il a partagé avec elle. Puis, c'est pas vraiment évident, là.
Mm-hmm. OK. Donc, sans aller dans les différentes scènes, peut-être on introduit spécifiquement... pour la première fois, on introduit spécifiquement pour la série télé Cad Bane. Puis c'est un vilain qui est pas issu des films comme Dooku puis Grievous ou de l'univers étendu comme Ventress puis Horacing qui fait un caméo dans... Ben, un petit peu plus qu'un caméo. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de Cad Bane en tant que personnage, comme vilain principal, disons?
Mais ça fait assez, tu sais, cowboy, là, tu sais. Mm-hmm. Juste avec le chapeau, puis ça fait vilain de Far West, là. C'est un peu ça, comme ça que je le voyais, moi.
The Good, the Bad and the Ugly.
Ouais. Ben, moi, il m'a fait un peu penser au Undertaker dans WWE.
Ben oui. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Moi, je voyais Clint Eastwood. Dans ma tête, c'était tout le temps Clint Eastwood. Il parle un peu pareil. Tu sais, il y a comme les mêmes mouvements. C'est son menton, sa bouche, il parle un peu pareil. Les dialogues, ils ressemblent un peu à qu'est-ce que Clint Eastwood dirait, là, tu sais.
Oui, tu sais, il est comme vraiment sans peur et sans compassion. Là, il tue tous les clones, je pense, qui sont sur son passage. Là, il n'y a aucune discrimination, là.
Mm-hmm. D'ailleurs, on peut parler justement de la première scène, la scène d'introduction, qui est l'approche du Sénat, c'est comme vraiment, à mon avis, est vraiment débile, entre guillemets. Tu sais, je veux dire, comme tu viens de dire, Cad Bane est efficace, sans peur. Il détruit tout ce qu'il veut, tous ceux qui se mettent sur son chemin, là, dans le fond. Là.
Tout est très bien planifié, son affaire. Hein.
Il y a aucune pitié, là, c'est comme...
Ouais, c'est ça. Puis, ça, justement, la première scène... montre un peu jusqu'où les auteurs puis Dave Filoni sont prêts à aller pour un show qui est quand même entre guillemets pour les enfants. T'sais, t'as un sniper qui tire sur les gardes, il fait des headshots à tout casser. T'as Cad Bane qui casse le cou d'un autre, il balance un détonateur dans une salle pleine de gardes. Je veux dire, c'est assez brutal. Là. Puis même c'est assez brutal, c'est ça pour les jeunes. Puis même aussi le combat à main nue entre Anakin puis le droïde d'assassin, c'est quand même violent aussi, là, des coups de crosse sur la tête, là.
Bon, on y reviendra à ça. Hein.
Ouais.
Ben, c'est ça aussi, au Racing, a pas beaucoup de pitié non plus. On le voit que, il y a le garde qui est à terre, puis il dit, tu sais, aide-moi, puis elle tue à bout portant, là. Donc, c'est un peu dans le genre de violence que dans cet épisode-là, là.
Mm-hmm. Mm. J'aurais voulu qu'elle soit plus utilisée un peu. Elle a une ligne de texte, mais au moins,
ben, c'est la première fois qu'elle parle.
Ben oui, c'est ça, ben, à part d'un BD, mais moi, j'ai pas lu les BD. Je pense que toi, JF, t'as lu les BD quand Racing était là.
Oui.
Mais moi, je l'avais jamais vu à part la seconde et demie dans Phantom Menace. Là.
Question que je me posais, justement. Elle, est-ce qu'elle vieillit? Parce qu'Anakin, lui, il a vieilli pas mal, puis elle a pas l'air à changer beaucoup.
Non, parce que même dans la série...
Legacy?
Ouais, Legacy of the Force, la série de roman.
Ah, c'est ça, ouais, c'est ça que je voulais dire, j'ai pas lu les BD, fait que je disais Legacy, mais c'était Legacy of the Force que je voulais dire. C'est ça. Puis elle est supposée être morte dans Coruscant Night. Dans Coruscant Night, le deuxième, on l'a vu. Et
ça se passe quand, ça?
Ça se passe après l'ordre 66. Mm. Donc, c'est assez,
La revoir dans la série télévisée, ce serait avec Boba Fett, là, je sais pas. Mm-hmm. Ça serait bon.
Ouais, ça serait un bon choix pour la série live action, là.
Ouais, c'est ça que je voulais dire.
Ben, c'est un personnage qui est mystérieux, fait que je vois pas pourquoi qu'il ne l'utiliserait pas, disons.
Mais mettons que l'actrice est déjà castée, là. Ça serait pas trop difficile.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, mais c'est facile de prendre une fille puis la maquiller, puis elle a l'air de d'au wrestling, là. C'est assez facile de. On peut prendre à peu près n'importe qui a le physique, là. Quand même. Mais bon, c'est certain que on l'a vu qu'elle était bonne sniper. Si on lit l'univers étendu, mais sinon on n'avait aucune idée. On a pu voir qu'elle était aussi.
Mais on pouvait le suspecter parce que son fusil est assez long, là. Je veux dire, même je pense qu'elle en a deux, là.
Mais on voit qu'elle elle a pas de pitié elle non plus, comme tu dis. Le gars il est à terre en train de mourir, il dit aidez-moi, aidez-moi, puis il tire dans la face. Là. C'est comme. C'est vraiment.
C'est plus facile d'être un sniper avec des rayons laser, mettons.
Ouais, ça va droit.
Parce qu'il y a pas de vent à calculer ou de la distance n'importe peu.
J'avais pas pensé à ça.
Ben, moi, je vais parler de la race de Cadman. Est-ce qu'on sait c'est quelle race? Parce qu'on la voit dans la scène de Cantina dans A New Hope.
C'est un
ce personnage.
C'est un duro.
C'est un duro? Ok. Ouais.
T'as différentes couleurs. T'as vert puis t'as bleu, je pense, comme les duros, les couleurs, là. Fait que, il y en a peut-être d'autres, là.
Dans A New Hope, dans Cantina, ils ont les yeux un peu comme dorés, là, mais.
Ouais, c'est ça.
Là, il avait les yeux rouges.
Mais il y a aussi son quand il parle, est-ce que c'est. Je me demande toujours si c'est son appareil qui fait que ça sonne métallique ou s'il parle comme ça normalement. Ça, je me demande. Parce qu'on le voit dans le preview qu'il n'y a pas son appareil, là. Dans le preview de la saison 2, là, on le voit une fraction de seconde, là, sans son appareil. Ah, j'ai décortiqué le preview de la semaine prochaine, on en parlera plus tard, là. Pas de la semaine prochaine, mais de la saison prochaine. Qu'est-ce qu'on pourrait. Marquant par rapport à Cad Bane, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer, qu'est-ce qui a marqué plutôt en gros l'épisode, c'est que Cad Bane réussit ses missions vraiment sans problème. Il réussit à faire libérer Zero, il a tué le sénateur sans même le regarder. Tu sais, il veut dire l'autre le triclope, si je me souviens plus trop, c'est la race c'est un Gand, je pense, quelque chose comme un Grand, la race de celui-ci qui a trois yeux.
Ouais, c'est ça, un Grand.
Il fait juste passer puis il regarde quasiment même pas puis il tire dans le dos. Je veux dire, en tant que téléspectateur, on a eu le message que Cad Bane va être redoutable dans saison 2. Là. C'est comme le beau Buffett de la guerre des clones, comme on l'a déjà mentionné. Là.
J'ai remarqué aussi qu'il a l'air à reconnaître Skywalker assez rapidement, donc je sais pas encore là si les épisodes étaient dans l'ordre. Parce que il a l'air à le connaître très bien. T'sais, il a vu tout de suite que c'était Skywalker, puis il avait juste vu la tête d'un coin. Là, t'sais.
Ouais. Parce qu'il est supposé avoir un épisode qui s'appelle Cargo of Doom, qu'il avait sur le DVD, qui mentionnait. Puis Cad Bane est supposé être là-dedans. Donc, si Cargo of Doom dans la production était faite avant, ben c'est peut-être pour ça qu'il a reconnu Skywalker, mais sinon, je vois pas non plus. Ou ben c'est juste parce qu'il est très populaire. Anakin, il est très reconnu comme étant un des grands Jedi de la République, là. C'est peut-être juste ça. Ou bien, ils ont étudié son dossier, là, avant de commencer son attaque.
Ce que j'ai aimé aussi dans l'épisode, c'est qu'ils ont réuni quand même des sénateurs qui étaient pas mal connus, qu'on a vu dans d'autres épisodes auparavant, comme on a vu aussi la sénateur de Pantora dans l'épisode sur la planète glacée.
Oui, c'est vrai, la jeune, là.
Oui.
T'avais aussi le
Rodian,
le sénateur Rodian. Puis il y en avait peut-être d'autres que j'ai pas allumé que.
Mais je crois que le Grand, on l'avait déjà vu.
Ben, celui qu'on avait vu, il est mort dans la château like Jar Jar. Tu sais, qui s'est fait enterrer.
Ah, oui.
Donc c'est sûrement pas lui.
Ben, comme je te dis, à moins que les épisodes soient pas dans l'ordre.
Ouais, mais il s'est fait tuer dans celui-là aussi.
Ouais, c'est vrai.
Fait qu'il y a deux sénateurs de cette race-là qui sont morts en peu de temps.
Ils se font tout le temps tuer.
Ouais, t'as fait, là.
C'est le fun pour la planète, hein.
Et puis personne va vouloir se faire aller, là, il est pas mort.
C'est comme les red shirts dans Star Trek. Hein, si t'es cette race-là pis t'es sénateur, too bad, tu meurs. Une chose qui est intéressante dans cet épisode-là, c'est la relation Anakin et Padmé. Pour moi, c'était rafraîchissant. C'est la première fois qu'ils peuvent parler librement de leur relation dans la saison, dans la première saison de Clone Wars. Je veux dire, il y avait des sous-entendus avant, durant la série, comme dans la conversation holographique à la fin du film. Clone Wars fait comme un clin d'œil à Anakin. T'as sur le train du Malevolence. T'as la toche Jedi que Jar Jar trouve dans le vaisseau de Padmé sur Rodia. Mais bon... Je veux dire, il y avait pas vraiment, on les voyait pas parler de ça vraiment, là. Donc, j'ai vraiment trouvé ça bien, d'avoir ce moment-là au moins pour consolider un peu la relation qu'on avait comme oublié d'un certain sens là.
J'ai trouvé aussi que l'actrice qui fait la voix d'Amidala, elle a bien les tonalités de comme dans les films là, je veux dire, elle a vraiment le...
Mais bon, Padmé s'est encore fait prendre en otage, donc c'est comme à un moment donné.
Ben c'est le classique là, de la femme en détresse là, je veux dire, ils reprennent le thème souvent là.
Ouais. En effet. Puis avez-vous remarqué, Anakin donne son sabre à Padmé à l'envers. Imagine si elle accroche le mauvais bouton. Elle serait empalée par le sabre.
Aussi, quand elle met le sabre dans ses mains, dans le dos, là, je veux dire, ça prend pas grand-chose pour le partir. Là.
Non, c'est ça. Mais bon, j'ai quand même trouvé ça intéressant que ces trois PO puis Sénateur Organa arrivent. Puis que il parle du projet de loi là, du Privacy Invasion Bill, tu sais, comme il venait justement d'introduire dans la vie privée d'Anakin puis Padmé, puis c'était comme justement le projet de loi qui était en train de, sur lequel il allait voter. Là.
Pis ça va aussi à la politique américaine là, tu sais,
ouais.
Du Big Brother puis d'espionner toutes les conversations téléphoniques pis tout,
les emails, ouais, c'est ça. C'est vrai, pareil. J'avais pas fait le lien sur le coup, mais c'est vrai, quand même.
T'sais, c'est leur façon de mettre ça comme actuel, là. C'est mm-hmm. d'avoir des choses qui ressemblent à la vraie vie. Mm-hmm. Ouais, j'ai trouvé aussi le sénateur Twi'lek, là, c'est Ornfree, comment il s'appelle?
Ornfree Tha. Ouais.
Il parle comme Jar Jar. Je sais pas l'acteur qu'est-ce qu'il a fait là, mais je trouve que son interprétation était pas correcte.
Ben moi j'avais un commentaire sur lui, c'était que le dernier épisode Liberation on Rylot ou Liberty on Rylot, Ornfree Tha, il me semble qu'il avait même pas le même accent.
Non, c'est ça. On dirait que c'est peut-être pas le même acteur ou ils ont pas trouvé le.
Parce que sur l'épisode avec Mace Windu. Il y avait aucun accent, c'est un accent américain. Puis là, on arrive sur il est de retour sur Coruscant. Puis là, oh, tout d'un coup, c'est un Twi'lek, donc on va y mettre un accent français ou quelque chose qui ressemble à un accent français. Je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de mettre, parce qu'il est Twi'lek.
Non, mais il dit des mots comme Yusa. Tu sais, c'est un peu comme Jar Jar. Il a les mêmes intonations. Je pense que c'est le même acteur qui fait Jar Jar. Okay. Je trouve que c'est en fait, c'est la partie la moins bonne de l'épisode, je trouve, c'est la performance de cet acteur-là, mm-hmm. à l'interprétation du sénateur. Là.
Ben, moi, dire...
Il devient de plus en plus gros, en plus.
Peut-être, ouais. Mais
c'est sûr qu'il y a toujours le hot qui est assez...
ouais. Ben, t'avais la voix de Bail Organa qui était pas très, très proche de celle de Jimmy Smith, là. Vraiment, c'était pas très convaincant non plus, là. Personnellement, là.
Je vois pas comment ça va des problèmes de budget dans l'émission.
Pourtant, Lucasfilm a de l'argent, là. En fait. Ils ont des... Qu'est-ce que tu disais, Jean-François?
Je voulais dire, ça doit pas être Jimmy Smith qui coûte le plus cher non plus.
Non, c'est ça. Puis quand même, Lucasfilm, ils ont les poches profondes. Ils devraient être capables de... Mais ils ont une limite de budget pour le temps alloué, j'imagine. Donc, on vient juste de parler de Zero. Je veux dire, encore une fois, j'ai pas vraiment aimé le personnage. Oui, il est original, là. Mais, je veux dire, avez-vous vu comment qu'il est chialeux dans cet épisode-là? Oh, la lumière du jour, pourquoi vous êtes venu me chercher en plein jour, là? Je veux pas retourner au Sénat! Puis,
c'est une diva, man.
Ouais, c'est ça. Puis, oh, les atrocités et les horreurs qu'il a subies en prison! Je pense qu'il aurait peut-être aimé ça, d'après son accent.
Et de la façon que l'histoire se termine, c'est comme si ce serait lui qui en fait qui aurait planifié sa propre sortie, là, mais je sais pas si c'est vraiment lui.
D'après moi, oui.
Moi, je pensais que c'était Dooku, la manière.
Mais c'est parce que Cad Bane arrive à la fin puis il dit ben c'est maintenant le temps de payer. Puis là tu vois Zero. Ouais. Donc j'imagine il y avait probablement comme dans toute bonne prison, t'as des liens avec l'extérieur, donc. C'est probablement...
Je trouve ça quand même drôle qu'ils prennent comme un petit traîneau en arrière avec un tractor beam. Là. Parce qu'il est trop gros. Là.
C'est ça. Bon, on va amener le lift. Comme...
le U-Haul.
Non, j'avoue que...
Ils ont l'air de s'en foutre un peu plus
sérieux, là. Mm-hmm. Je vais juste dire, sa voix, honnêtement, je pense que c'est une des voix les plus agressantes qu'il y a pas.
Ben c'est ça, c'est pour ça que je dis que je pense que les horreurs pis les atrocités qui a vécu en prison, il a dû aimer ça.
Ouais, c'est ça.
Enfin. On peut dire que l'équipe de Cad Bane a quand même prouvé qu'elle était très qualifiée au début de l'épisode, enfin. Ils ont quand même un certain talent dans qu'est-ce qu'ils font. Cependant, quand est arrivé le moment de faire la recherche d'Anakin sur les étages, disons qu'ils n'ont pas vraiment prouvé qu'il y avait du talent. Genre, quand il arrivait pour regarder, il faisait juste regarder dans les pièces, il rentrait même pas pour fouiller un petit peu, regarder avec une lumière qu'il n'y a personne. Puis c'est rentrer puis fouiller un peu plus, là, tu sais, vous l'auriez trouvé Anakin, là.
T'sais? Ouais, c'est ça.
Mais c'est oui puis non, parce qu'il y a quand même à un certain moment. En tout cas, le droïde IG, là, ouais. Lui, il a de l'air pas si pire. Puis quand ils sont quand il est revenu, le Bounty Hunter, avec Aura Singh, il s'est fait prendre tout de suite son fusil, mais il savait que Aura Singh était derrière, donc il avait comme une espèce de petite stratégie, là, donc
C'était pas le droïde, c'était le Wiki qui est arrivé avec Aura Singh derrière. Puis bon, on a vu qu'Anakin a fait un mind trick. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit faire ça dans la série. On avait vu Obi-Wan le faire à plusieurs reprises. Mais je me souviens pas. Peut-être justement quand ils sont sur la planète des pirates, là, quand ils sont en prison, je pense que c'est Obi-Wan qui fait un mind trick et non Anakin.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça, je pense que c'est la première fois qu'on voit Anakin faire un mind trick. Puis bon, comme je disais, le Wiki a au moins déduit qu'Anakin n'avait pas son sabre, donc c'est quand même...
Oui, c'est ça, il est pas si pire que ça, là. Mm-hmm. Il est capable de se faire influencer, mais il est quand même
très observateur, disons-le.
Ouais, plutôt, ouais. Mais en fait, je sais pas si c'est un peu les wikis, je sais pas s'ils essayent de mimiquer un peu les Amérindiens, si on veut, là, mais ce serait comme un ranger.
Un pathfinder,
c'est ça.
Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais en fait, on a vu que quand ils sont en équipe, ils travaillent très bien, autant pour la scène d'entrée que quand ils ont capturé Anakin. Je veux dire, comme je disais, le Wiki, il se fait prendre son fusil par la force. Anakin le prend. Il fait juste faire comme s'il se mettait à genoux pour se rendre. Et puis, t'as Aura Singh en arrière. Puis, t'as l'autre, je me souviens plus de son nom, le petit poisson. Là, il a l'air d'un poisson. Je me souviens plus de son nom. Il saute avec un taser dans la gorge, ça c'est, j'ai vraiment aimé ça, cette scène-là. Je veux dire, c'était un super bon travail d'équipe, là. Anakin n'avait pas de chance quand même, là. Il y a eu la scène avec les espèces de détonateurs au rayon laser que je trouvais personnellement que n'importe qui aurait pu glisser en dessous.
Des lasers. Ouais, c'est ça, ils étaient tous au même niveau.
C'était comme, t'avais deux rayons, mais je veux dire, t'avais peut-être deux trois pieds entre le sol puis le premier, donc à peu près n'importe qui aurait pu glisser en dessous, là. Mais bon, il c'était peut-être juste pour montrer qu'il était vraiment pris sans vraiment pousser la chose.
J'aimais que ce soit justement la sénatrice aussi de quand Anakin il était pris à terre inconscient, c'est la sénatrice de Pantora qui est allée l'aider. Mm-hmm. Donc c'est la preuve qu'elle connaissait déjà.
Ouais. Anakin était sur ses genoux étendu par terre. Donc, bien entouré.
Le combat entre lui et le IG.
Mm-hmm, ouais.
Comment t'as trouvé ça?
Ah, j'ai trouvé ça bien. Je veux dire, on a vu que physiquement, Anakin a une limite. Je veux dire, le IG, physiquement, il tassait Anakin là, puis facilement. Je veux dire, mais après, c'est plus le...
Ouais, le IG s'en sort quand même assez bien. Je trouve que, tu sais, il est bon pour se battre pareil, là.
Mais je trouve Anakin, justement, n'a pas utilisé la force assez. Il aurait pu vraiment faire un force push, puis plein de choses.
Il est allé vraiment comme à main nue. Mm-hmm. Tu sais, il donne des coups de poing à un robot. Un robot, ça sent rien, là.
Non, c'est ça.
Pensais-tu défoncer le visage?
Après ça, il était avec la carabine, puis paf, paf, dans la tête, là.
Ouais, c'est ça. Un peu comme des coups de crosse sur la tête. On voit que ça
C'est ça, il n'y avait pas le choix vraiment à coup de poing, tu peux pas le battre, le robot. Là, faut que tu y ailles pour le. En fait, il devait donner des coups de crosse à la gorge parce qu'on a vu qu'il arrachait la tête. Là.
Mm-hmm. Je sais pas, avez-vous remarqué justement le IG-86, je crois, il y avait plein de lignes blanches comme peinturées. Il y avait un peu le look que sa guitare de Van Halen.
Oui, il était un peu camo, hein.
Ouais, ça, une espèce des lignes blanches un peu diagonales un peu partout. Puis c'était étrange, là, je veux dire, comme camouflage, là, c'était du body art, là, c'est des tattoos, je sais pas.
Ben, c'est tout pour, ils ont ça sur plusieurs personnages, hein, comme les clones, c'est tout pour leur donner une individualité, là, qu'ils font ça, mm-hmm. Je pense.
Pour pouvoir réutiliser les modèles 3D.
Mais ils ont, tu sais, les, en fait, c'est, je pense, c'est la première scène lorsqu'ils arrivent au Sénat. Il y a d'autres droïdes qui sont un peu,
ouais, les droïdes commando.
Peut-être un peu plus ronds.
Les droïdes commando.
Ouais, c'est
qu'on
ça.
On voit dans Rookies. Eux autres, je les aime. Je veux dire, ils sont capables de faire tout, là.
Mais c'est ça, mais ils se sont déguisés comme en garde du Sénat.
Ouais.
Mais après ça, on les a pas vus.
Ben,
ils auraient pu confronter un peu d'autres gardes, hein, là, en conversation. Moi, je trouve que c'est un petit affaire qui a manqué. On dirait qu'ils auraient pu profiter un peu de ce déguisement-là.
Je pense que c'était peut-être juste pour garder la plateforme en cas qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent, peut-être.
Ouais, c'est peut-être ça, mais on les a même pas vus quand ils sont repartis, je pense.
Non.
On les a-tu vus?
Non.
Non.
Fait qu'ils sont encore infiltrés.
Ah, c'est peut-être ça, hein?
Peut-être pas, là, mais enfin. Ils ont dû se sauver par eux autres même, là, peut-être, là. Ou bien se sont fait faire sauter avec les autres gardes dans la salle par le détonateur.
Non, ça me surprendrait.
Dark Bane voulait pas de fuite, hein? Ouais, on les efface.
Puis je trouve ça bizarre qu'il ait utilisé le nom de Bane une autre fois, c'est pas.
Ouais.
Je trouve que c'est pas vraiment un bon move, là, mais.
T'sais, puis t'as 4 Skywalker aussi qui existent.
Parce que je pense que c'est canon, ça. Il mentionne dans l'épisode 3, je pense, Bane.
Non, il mentionne pas Bane. Il parle de Dark Plagueis, mais
Plagueis, ouais, c'est ça.
Mais il mentionne pas Dark Bane. C'est vraiment juste dans l'univers étendu, je pense que.
Okay. Mais c'est parce que je trouve que c'est un peu une claque dans la face de l'auteur, là, je veux dire. Mm-hmm.
Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de noms qui reviennent, là. Je veux dire, il y a 4 Skywalker dans la série Legacy en BD, donc. C'est comme un prénom, là, Cad, puis Bane, c'est un nom de famille, je dirais. C'est sûr que là, c'est Dark Bane, c'est pas tout à fait un nom de famille, là. Enfin. Si on dit un mot de la fin par rapport à l'épisode, après on va parler de la preview de la saison 2. Moi, personnellement, je trouve que c'est une super façon de terminer la saison avec un épisode solide, parce que c'est quand même considéré un épisode solide. C'est dommage qu'il n'y ait pas de cliffhanger, mais bon, c'est pas la fin du monde. Il y a pas eu de grosses scènes d'action, mais il y avait plusieurs petites scènes d'action, donc ça donnait un bon rythme. Il y avait un bon équilibre entre l'action et le suspense, parce qu'on se demandait tout le temps qu'est-ce qui allait arriver, donc c'est bien. Je suis très heureux que Cad Bane, que les Filoni aient créé, puis son équipe ait créé Cad Bane. Qui pour moi rentre dans la même catégorie que Boba Fett, Shaft, sur l'échelle du badass.
Ben moi c'est ça, c'est à peu près la même chose. C'est un bon épisode, mais j'aurais vraiment voulu un cliffhanger à la fin, là, parce que vraiment ça a fini la dernière scène avec le Hutt. Donc je sais pas si c'était la meilleure façon de finir. En fait, c'est ça, là, j'ai bien aimé.
C'est Jean-François.
Ah, moi aussi j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Comme vous mentionnez, c'est la fin, moi aussi, j'ai trouvé un peu pas plate, mais j'ai trouvé que ça finit un peu comme en queue de poisson avec Zero. On dirait qu'ils ont voulu faire un lien avec le film, parce que le film, c'était comme le début de la série, puis c'était comme une fermeture. Là, t'sais. Mais j'ai trouvé que c'était un bon épisode, surtout parce qu'il était différent de ce qu'on a vu. Mm-hmm. Qui était pas, comme tu disais plus tôt, il était pas focusé juste sur la guerre, là, c'était vraiment comme une prise d'otage, puis c'était comme c'était plus sombre comme épisode, c'était vraiment assez violent.
Et ça finissait avec Cad Bane surfant vers le soleil sur son speeder. Comme le Silver Surfer, là, genre.
Ouais.
Sur son vaisseau. On pourrait dire pratiquement que le cliffhanger, c'est le preview de la saison 2 qu'ils ont mis à la fin. Donc, je vais dire rapidement qu'est-ce que j'ai vu. J'y étais frame par frame. Vraiment, là. Donc, il y a peut-être des choses qui vont allumer des lumières sur qu'est-ce que vous vous rappelez. On en parlera après. Bon, on voit Bane, il est encore présent, on le voit clairement. Possiblement dans l'épisode Cargo of Doom. On voit qu'ils sont à bord d'un gros vaisseau, là, dans le preview. Parce que toutes les images qu'on a vues, les nouvelles images, ça venait toutes d'un même épisode, je suis pas mal certain. C'est un épisode qui a justement Cad Bane. T'as Ahsoka avec un bébé dans les bras, un peu comme t'avais avec Rota le Hutt, sauf que là, c'est une race un peu comme les bites, quelque chose comme ça. C'est comme ceux qui jouent dans la cantine, là.
Ouais.
Mais tu le vois, elle a un petit bébé dans les bras, donc c'est peut-être justement l'épisode que je décrivais de l'encyclopédie où est-ce que Cad Bane capturait des enfants sensibles à la force pour les amener sur Mustafa pour Palpatine, c'est peut-être celle-là. Tu vois Obi-Wan et Mace Windu qui se sauvent d'une explosion. Enfin, la silhouette du deuxième, c'était, il n'y avait pas de cheveux, donc j'ai supposé que c'était Mace Windu. T'as Anakin avec deux sabres laser, le sien et celui d'Ahsoka, contre Bane et deux Super Battle Droids. On le voit qui fait quelques moves avec deux sabres, un bleu et un vert. C'est vraiment celui d'Ahsoka. J'ai regardé le manche, le grip du sabre d'Ahsoka. T'as Cad Bane qui utilise un fouet pour subtiliser le sabre d'Ahsoka. Il fait un peu son Indiana Jones.
Ben c'est ça, ça fait très western. Mais... Mm-hmm.
T'as Cad Bane qui est déguisé en clone trooper à bord d'un speeder, d'un vaisseau. Je sais pas si t'as vu, c'est Anakin qui donne comme un coup de poing sur le casque. Puis là, tu vois, ah, c'est Cad Bane qui est en dessous.
Ouais.
T'as Ahsoka avec une nouvelle combinaison rouge. T'as une espèce de bodysuit moulant, un peu comme Padmé porte sur le Geonosis en blanc. Sauf que là, elle a comme un bodysuit rouge, plus rouge que son visage, pour pas qu'elle ait tout nue. Là. Mais avec une ceinture blanche, elle se fait comme électrocuter, tu sais, Bane la pogne par un pied, puis elle reçoit un choc électrique. Je sais pas trop la scène, puis pourquoi qu'elle a changé d'habillement, parce que dans le même épisode, elle a l'air d'avoir deux habillements différents. Donc, son habit traditionnel et puis l'habit en bodysuit. Donc, j'ai aucune idée. Au moins, elle a un nouvel habit, fait que rouge, c'est peut-être pas la meilleure couleur, mais bon, on va faire avec. On voit Cad Bane avec des rétrofusées dans ses bottes, un peu comme Astro, là. Astro, le petit robot. Ben, c'est plus un peu sur les côtés, un peu comme R2-D2, il y a comme des petites fusées qui sortent de ses pattes de côté. Mais Cad Bane, ouais. Il y a ça dans les pieds, dans ses bottes, donc on le voit qu'il se sauve grâce à ça. Puis ils sont dans un, comme je disais, un grand vaisseau cargo, on dirait, où il y a des canons à protons, comme dans le Liberty of Ryla, les canons même que Obi-Wan embarque, puis tu vois les deux clones qui chargent des capsules. Je sais pas si vous vous en souvenez.
Mm-hmm.
Bon, ben là, t'as comme des espèces de chargeurs avec plusieurs de ces cartouches-là. Comme ça faisait comme ça, comme un grand chargeur à l'intérieur. Puis c'est comme des canons alignés comme un bateau de pirate, là. C'est vraiment bizarre, là. Vu de l'intérieur, c'est ça que ça donne l'impression. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on voit qui ont l'air nouveaux pour la saison 2. Donc, ça a l'air assez intéressant. En tout cas, l'épisode avec Cad Bane a l'air assez intéressant. Est-ce que c'est le premier de la saison prochaine? Possiblement.
Mais ils ont l'air à vouloir mettre une emphase là-dessus parce qu'ils disent « they're back ». Donc, and here to stay », je pense que c'est ça qu'ils disent. Donc, les Bounty Hunters, on va les revoir, c'est sûr.
Ben, enfin, on n'a pas vu d'autres Bounty Hunters, on a vu Cad Bane, mais il était surtout avec des droïdes puis des Super Battle Droids dans le preview de la semaine prochaine. Il y avait des droïdes réguliers puis les gros beefs, là, les Super Battle Droids. Donc, il avait l'air d'être seul avec tout ça. Donc, vraiment, il travaillait avec les séparatistes dans cet épisode-là.
Mais c'est ça, mais en fin de compte, ça va être bien parce qu'ils vont quand même relier Cad Bane à l'arche principale de l'histoire qui est la Clone Wars. Donc, s'ils réussissent à l'associer à l'histoire principale, c'est bon. Mm-hmm. Parce que là, on a vraiment vu un épisode que c'était vraiment séparé, ça n'avait pas rapport à la guerre des clones. Mais s'ils réussissent à l'embarquer d'une certaine façon à l'intérieur, c'est bien.
Dans le fond, c'était juste pour l'introduire cette semaine, dans le fond. C'était pour introduire le personnage. Maintenant, voir jusqu'où qui vont le faire durer. Est-ce que ça va être le genre de vilain qu'ils vont trop utiliser encore comme ils ont fait au début avec Grievous puis Ventress? Puis je pense pas qu'on va se tanner de lui, mais je veux dire oui, il va tout le temps se sauver, il va tout le temps s'en sortir, un peu comme les personnages principaux. On a juste une saison de fête là quand même, donc
en fait là, ils nous ont montré une victoire des méchants comme cet épisode-ci. Donc Cad Bane a rempli sa mission de A à Z, donc normalement, quand tu vois d'autres comme Dooku, Grievous ou l'autre site apprenti, je me rappelle plus vraiment son nom.
Ventress.
Ouais, Ventress. Mais c'est tout le temps des défaites la plupart du temps. Donc là, ils ont vu, on a un nouveau personnage qui a une victoire.
Mm-hmm. Il est pas dans les séparatistes, entre guillemets. Il est vraiment plus, d'après moi, au meilleur payeur. Donc, j'aimerais ça voir un épisode qui la République qui l'engage. Ça serait vraiment, mais c'est pas l'argent vraiment là, donc
non, il ferait pas ça.
Pour la saison 2, on va en parler lors du prochain Star Wars en direct. Donc, en espérant que vous pourrez y participer. Donc, merci messieurs de votre participation tout au cours de la saison 1 de Star Wars en direct et de son Clone Wars. En espérant vous revoir la saison prochaine. Merci à vous deux. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Salut.
Ceci conclut le 19e et dernier épisode de Star Wars en direct édition Clone War dédié à Hostage Crisis, le dernier épisode de la saison 1 de la série Clone Wars. Vous pouvez communiquer avec nous par email à l'adresse studio@swendirect.com et vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale Skype à l'usager SW en direct. Ne manquez pas le prochain épisode de Star Wars en direct, le 83e épisode qui sera dédié à Fate of the Jedi Outcast et à une table ronde sur la saison 1 de la série télé Clone Wars. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.